Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est la suite de notre nouvelle série Habiter, demeurer, se loger. Nous explorons ces trois thèmes avec toutes les sciences humaines et sociales, toutes sont concernées, de la philosophie à la géographie, de l'anthropologie à l'architecture, ce sera ce soir, de la sociologie aussi. Et nous parlons également d'histoire de l'urbanisme avec mon invité. La notion d'habiter concerne bien entendu la circulation des savoirs sur l'urbanisme. Elle questionne aussi le renouvellement de la formation en urbanisme. Elle interroge bien entendu les architectes, mixer la ville, logement, habitants, penser les choses autrement qu'avec des enjeux du siècle passé. C'est tout cela que nous allons explorer. Bonsoir Marlène Goreyeb.
Bonsoir.
Architecte urbaniste qui a soutenu une thèse sur ces travaux-là, cette réflexion autour des savoirs, et en urbanisme en aménagement à l'Institut français d'urbanisme Paris 8, professeur également à l'École spéciale d'architecture. Comment entendez-vous ce terme « habiter » et si l'on parle d'habiter, demeurer, se loger, quel est celui que doit choisir l'architecte et l'urbaniste? On distinguera après ces deux professions.
En fait, je pense que pour l'architecte, l'urbaniste, on habite son logement, on habite son environnement, et d'autant plus cette question devrait se poser de façon un peu plus cruciale maintenant, parce qu'on est amené à habiter autrement son environnement et à être acteur de son environnement, donc à être acteur de son habitat. La question de l'habitat dépasse la question du logement. Demeurer, c'est dans le temps. On peut ou pas demeurer dans son logement, on peut ou pas en faire une demeure, parce que les modes de vie, enfin, on n'est pas forcément dans le long terme concernant le logement. Néanmoins,
on l'est de moins en moins, vous voulez dire?
Oui, on l'est de moins en moins. Mmh. On l'est de moins en moins, mais on est amené à être acteur de son habitat. En tant qu'habitant, et bien évidemment, ça concerne en premier lieu les architectes et les urbanistes qui doivent bien évidemment revoir leur approche, les paradigmes, etc., de façon à ce que les habitants puissent devenir réellement acteurs de leur logement et de leur habitat.
Avec des réticences du côté, on va y revenir peut-être, du côté des architectes. Est-ce que ça a pris un petit peu de temps? Vous sentez ce mouvement bien amorcé aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il est bien compris aujourd'hui. Je pense que l'expertise d'usage est quelque chose qui est intégré dans les démarches. Mais il est vrai que ce n'était pas le cas il y a encore quelques temps, pour la simple raison que ça remet en question un modus operandi de l'architecte et de l'urbaniste. Ça remet en question son savoir. Donc ça nécessite bien évidemment une autre démarche.
Remontons un peu en arrière, Marlène Goreyeb, avec vous, ce que vous avez fait d'ailleurs dans vos travaux. C'est le centenaire, cette année, bien peu de gens le savent, je l'ai appris grâce à vous, de la promulgation de la loi Cornudet. La loi Cornudet, qui est très importante à vos yeux, qui jette les premières bases de l'urbanisme. C'était donc en mars 1919, des plans dits d'aménagement, d'embellissement, d'extension. Rappelez-nous en quelques mots en quoi consiste cette loi.
Alors, la loi Cornudet du 14 mars 1919, donc on fête le centenaire, comme vous l'avez précisé cette année, c'est la première loi qui va instituer les plans d'aménagement, d'embellissement et d'expansion pour toutes les villes françaises de plus de 10 000 habitants. En quelque sorte, elle institue une nouvelle discipline qui est l'urbanisme. C'est une nouvelle discipline qui est créée à partir de 1910, qui est créée suite à toute la réflexion qu'il y a dans le cadre du musée social, notamment dans sa section urbaine et rurale, qui était une sorte d'observatoire urbain, même si le terme est tout à fait anachronique maintenant, parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour le début du 20e siècle, et une vision aussi du progrès social. Il y a eu l'influence, bien évidemment, de toutes les utopies du 19e siècle. Donc, tout cela va converger vers la création d'un nouveau métier qui est l'urbanisme et la création de la Société française des urbanistes en 1911. Et la loi Cornudet arrive pour instituer tout cela. C'est la première fois qu'on va saisir la ville par un plan d'aménagement d'ensemble. Elle est saisie dans sa globalité. Elle est aussi saisie à partir d'une pensée théorique, puisque c'est l'hygiénisme qui, au début du siècle, va fonder toute cette démarche des premiers urbanistes. Et aussi, désormais, c'est des sachants. c'est des urbanistes, des architectes qui ont en charge le devenir de la ville.
Et sachant, c'est intéressant parce que justement, c'est ça qui est un petit peu, non pas remis en question, mais en tout cas un peu bousculé à la période contemporaine. On va y revenir. L'importance de l'hygiène, hein, hygiène rurale et urbaine, bien entendu, c'était quand même un des objectifs principaux de cette loi.
Absolument, parce que, enfin, au début du siècle, comme nous le savons, on est dans une période de grande mutation, on est dans une période de mutation des modes de production et aussi dans une période d'insalubrité. Les logements sont insalubres, il n'y a pas d'eau, les bidonvilles se forment de plus en plus, dans les grandes villes. Donc, on a considéré que la ville était malade.
Est-ce que la France est pionnière en ce domaine, dans ce que vous en savez, Marlène?
C'est un mouvement qui va se généraliser, c'est-à-dire qu'on va retrouver...
Dans les pays européens?
Dans les pays européens, c'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, à Barcelone, il va y avoir un plan qui relève de tous les principes de l'hygiénisme. Idem pour les cités-jardins qui vont nous venir d'Angleterre, l'Allemagne aussi. Parce que les mutations que connaît la France sont identiques. Un peu dans toutes les villes européennes, c'est-à-dire on est passé à un autre cap de la ville industrielle qu'on va accuser de tous les maux. Et aussi il y a les épidémies, il ne faut pas oublier que les épidémies vont frapper très fort l'Europe et on va considérer que c'est en ville qu'elles sont, parce que forcément avec
le monde... Elles sont les plus dangereuses. Donc planification stratégique hein, qui vient remplacer au fond des constructions un peu plus anarchiques avec des outils nouveaux, avec des acteurs nouveaux. L'urbanisme donc devient vraiment presque un modèle, je veux dire, de gouvernance. Enfin, cette œuvre, comme vous l'avez dit, ce sont les sachants.
Alors, ce sont les sachants, oui.
Comment travaillent-ils avec les politiques à cette époque-là?
En fait, les PAE, donc les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension, nécessitent en amont un savoir technique des collectivités locales, des municipalités, qu'elles n'ont pas toutes. Nécessitent aussi des moyens, parce que même si on va appeler un urbaniste pour faire le plan de la ville, on manque souvent de moyens de financer la mise en œuvre de ce plan. Il y a une certaine distance, enfin l'urbanisme c'est un projet social. Je le dis, je le répète, que ce soit au début du siècle, c'était un projet d'une société hygiéniste. Au milieu du siècle, c'est la modernité. Et maintenant, on est dans un projet de société écologiste. Je veux dire, on est de toute façon dans un projet de société. Sinon, l'urbanisme ne peut pas se mettre en œuvre, ou bien de façon très autoritaire, impulsée par le haut. Mais les premiers urbanistes, ils véhiculent donc ces valeurs. Ils véhiculent les valeurs de l'hygiénisme à la demande d'une collectivité locale et reste quelque part en marge quand il s'agit d'une commande. Par contre, leur influence, l'influence justement, je disais tout à l'heure, du musée social à la Chambre des députés pour un progrès social et pour les premières lois d'un habitat social émane complètement de ce groupe de pression et de réflexion.
Donc oui, ils sont déjà influents.
Absolument, ils sont déjà influents, les premiers HBM, etc.
Alors vous avez aussi étudié Marlène Goriel, je crois que vous êtes libanaise d'origine.
Absolument.
Vous avez étudié aussi l'exportation de ce modèle occidentale. Et on le sait, beaucoup de constructions ont été faites, notamment dans les anciens protectorats, anciennes colonies. Et vous avez fait un ouvrage que je trouve très intéressant. Je voudrais qu'on passe un petit moment à en parler parce qu'il est très significatif. Beyrouth sous mandat français. Alors évidemment, ça remonte un petit peu loin, mais comment cette ville, magnifique, demeurant, a été modelée, préparée par les Occidentaux, mais avec certaines résistances aussi, c'est-à-dire exportation, mais d'autres modes de pensée en même temps en confrontation.
Absolument. Alors, je vais revenir sur Beyrouth, mais si vous le permettez, je vais juste préciser une ou deux choses. Cet urbanisme-là, cette nouvelle discipline, pensait porter en elle des valeurs universelles. Celle du progrès social, celle de l'hygiène, etc. Donc l'exportation était d'emblée quelque chose d'inhérent puisqu'on était dans des valeurs universelles. Le mouvement moderne aussi, par ailleurs, va être dans cette même démarche. Et comme vous l'avez précisé à juste titre, la France est un empire. Donc les territoires de l'empire s'offrent plus facilement à des nouveaux aménagements, pour différentes raisons qu'on peut développer, que la France qui résiste, comme on le sait des fois, aux nouveautés. Effectivement, les premiers urbanistes vont voyager un peu partout dans le monde, non seulement dans les colonies, c'est-à-dire on va avoir Rotival qui va faire le plan de Caracas, on va avoir le plan de Rio qui va être aussi fait par ces urbanistes-là, et là, le plan qui est proposé pour Beyrouth s'inscrit dans cette dynamique, où déjà Prost a proposé un plan pour Casablanca, de façon avant-gardiste, encore faut-il le noter, puisque avant même que la loi Cornudet ne soit votée en 1919, Prost réalise un plan d'aménagement pour la ville de Casa en 1914. Prost qui est donc dans cette mouvance
des... Qui est architecte ou qui est urbaniste, comment le qualifiez-vous?
Il est architecte urbaniste, donc c'est un peu le père de l'urbanisme à l'époque. Et un des fondateurs de cette nouvelle discipline. Et les transformations de Beyrouth qui se font pendant le mandat, donc deux décennies, le mandat, c'est très court, s'inscrivent dans cette démarche-là et aussi dans une dynamique de transformation et dans un désir de modernisation de la ville qui est presque antérieur au mandat français. C'est-à-dire que déjà, l'Empire ottoman lui-même rechercher la manière de s'inscrire dans tout ce que l'Occident pouvait offrir de modernité. Et de toute façon, il était sous influence aussi parce qu'il s'affaiblissait. Donc, c'est toujours une chose et son contraire. Mais le modèle de la ville occidentale devient dominant. C'est-à-dire les grands boulevards, cette ville organisée, c'est quelque chose qui ne se transfère pas seulement par le biais de la colonie, mais aussi s'inscrit dans des dynamiques locales de modernisation. Donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces urbanistes-là, une fois qu'ils sont confrontés à une réalité de terrain, une fois qu'ils sont confrontés à une culture, à des modes d'habiter justement différents, à des usages en ville qui sont différents, ils doivent...
Composer,
voilà. Voire contourner parfois certains de leurs principes et composer avec ces réalités-là. Et Beyrouth, ça a été le cas. Je me permets juste de rappeler quelque chose, que les premiers urbanistes traversaient la ville à pied. Donc c'était une autre échelle que l'urbanisme de plan qui va arriver bien plus tard. Donc ils avaient un contact avec la ville qui était beaucoup plus direct que les urbanistes qui vont à un moment donné vraiment approcher la ville par plan, par une vision qui...
En la
survolant complètement.
Oui. C'est des usages très différents. D'autres exemples, vous avez cité le Brésil, de villes comme cela, très inspirées par les méthodes occidentales, mais qui ont aussi fait... connaître leur propre identité.
Alors,
on revient au mode d'habiter.
Le Brésil très fortement, notamment tout ce qui a concerné la deuxième génération, tout ce qui a concerné le mouvement moderne. Parce que c'est vraiment là où le mouvement moderne a connu plusieurs évolutions, hein. Il n'est pas à prendre dans un même moment. Mais dans les premiers temps, ces urbanistes-là, donc à partir des années 40, d'une part, ils vont trouver des territoires où ils peuvent s'exprimer, alors que en France, c'était assez difficile dans l'entre-deux-guerres pour les raisons que nous connaissons. Et d'autre part, ils vont, comme je le disais, être soutenus aussi par une partie des élites de ces villes-là qui sont à la recherche de cette modernité et de ce progrès. Ce qui est intéressant, c'est que la confrontation avec différents territoires va générer des choses, des fois, tout à fait inattendues. Moi, j'ai pas mal travaillé sur Michel Écochard, un urbaniste dans la mouvance du mouvement moderne.
Quelle période?
Dans les années 40-50. Il a fait un plan pour Beyrouth dans les années 40. Il va beaucoup travailler dans les pays arabes et en Afrique aussi. Il est dans la mouvance du mouvement moderne, qui est un mouvement international, encore faut-il le rappeler. Donc il y a des architectes de ces pays-là qui s'inscrivent aussi dans cette même logique d'intervention sur la ville, qui se voulait plus radicale, qui voulait transformer cette ville qu'on considérait quelque part comme qui était désuète au regard des grands progrès du XXe siècle, n'oublions pas le XXe siècle.
Bien sûr. Mais Marlène Goriet, quand on vous entend parler notamment de ces pays, les pays arabes, et puis vous avez cité largement Beyrouth aussi, on se dit quand même que les modes d'habiter, pour le coup, n'étaient pas les mêmes que ce qui se passait en France. C'est-à-dire que l'habitat est plus collectif, si je ne me trompe, ou en tout cas, d'abord, les conditions matérielles ne sont pas forcément les mêmes non plus. Donc, il fallait tenir compte de tout ça. Quand quelqu'un comme Michel Écochard, certainement pétri d'une science occidental arrive dans ces villes-là, comment tient-il compte de ces modes d'habiter et quel type de résistance il rencontre ?
Alors Michel Lécochère est un très très bon exemple. Autant dans un premier temps, pendant le mandat, il va très simplement exporter un savoir qu'il va mettre en œuvre dans le cadre du plan qu'il propose pour Beyrouth ou pour Damas dans les années 40, par exemple, pour Alep aussi. Par contre, quand au début des années 50, il se trouve au Maroc, directeur du service de l'urbanisme, et au regard de sa conviction que le mouvement moderne pouvait apporter des solutions à l'ensemble de la population.
Oui, des solutions sociales, bien sûr, solutions de bien-être social.
Il est confronté à la question des bidonvilles. Et là, la démarche, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un urbaniste moderne, il va essayer de comprendre comment les gens habitent, enfin leur origine rurale, comment ils ont transformé leur mode d'habiter dans une situation donc de bidonville, on s'entend bien, urbaine. Et à partir de là, il va essayer de proposer quelque chose qui s'inspire de ce mode de vie et qui, dans le même temps, est fondé sur les principes du mouvement moderne. Donc cette rencontre est tout à fait intéressante entre quelque chose qui est plus d'une culture locale, d'un mode d'habiter, et cette volonté quand même de vouloir mettre en œuvre les grandes idées du mouvement moderne. Oui. Là, je vous donne un très bon exemple, parce que j'aurais pu en donner de très mauvais. D'ailleurs, il y a qu'à voir un peu le paysage urbain qui s'offre dans toutes ces villes émergentes, où l'architecture internationale est très, enfin, que ce soit à Rio, que ce soit à Beyrouth ou dans d'autres villes, l'architecture internationale au milieu du XXe siècle va dominer complètement le paysage bâti. Et là, il n'est absolument plus question de mode de vie, en sachant que ceux qui peuvent se payer ce type de logement sont dans le renouvellement de leur mode de vie et les autres sont laissés pour compte.
France Culture, matière à penser. Dominique Rousset.
Mm.
Matière à penser, cette belle voix libanaise et celle de Yasmine Hamdemne. Nous sommes donc toujours sur notre série Habiter, demeurer, se loger avec Marlène Gorayeb, architecte, urbaniste et également enseignante. On va y revenir car les pratiques et celles de l'enseignement ont également beaucoup évolué. Nous avons parlé de Beyrouth et fait tout un passage par l'histoire. Marlène Gorayeb, qui me paraissait nécessaire. Alors Beyrouth aujourd'hui, encore d'autres bouleversements. Nous étions dans les années 40. Et à nouveau, cette ville a été bousculée.
Absolument, dans ce qui était...
Ce que vous appelez le monde moderne, ça, ou pas?
C'est le monde contemporain. on n'est plus dans la modernité, on est dans le monde contemporain. Et Beyrouth s'est reconstruite à un moment où... déjà, le centre-ville s'est reconstruit comme une façade de l'histoire de la ville, sans que les usages, pour autant, puissent y être reconduits, puisque ça s'adressait à une autre classe sociale, d'une part. Et d'autre part, comme beaucoup de villes, à la fin du XXe, au début du XXe siècle, ont convoqué l'architecture comme une façade pour leur inscription dans le XXIe siècle. Donc Beyrouth en est un exemple, mais on retrouve d'autres.
On peut en citer beaucoup d'autres.
On va en citer beaucoup d'autres.
Y compris dans les villes occidentales, alors revenant vers l'Europe.
Oui, y compris dans les villes occidentales, mais cette démarche est encore plus frappante quand elle est exportée comme ça, brutalement.
Vous n'avez pas dit choquante, mais vous auriez pu.
J'aurais pu, oui.
Alors précisément, nous sommes au 21e siècle et il semble que du côté de l'architecture et de l'urbanisme, on a mis un petit peu de temps à le réaliser ou à l'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, bien entendu? Et ça, c'était pendant toute la durée du XXe siècle, de grandes mutations urbaines, une population de plus en plus urbanisée dans le monde. Ça, nous le savons bien, une croissance exponentielle dans les pays émergents, puisqu'on parlait d'exportation des pratiques, une conjoncture aussi de grands déséquilibres. La pauvreté grandit, mais les inégalités... Plus encore, la pauvreté peut être combattue dans certains pays, parfois. Et une privatisation également croissante du secteur public. Voilà autant quelques paramètres, il y en a encore beaucoup d'autres, qui font tout changer. Est-ce qu'on a mis un peu trop de temps à le comprendre du côté de l'architecture et de l'urbanisme? Il semble que c'est votre point de vue, Marlène Gorayeb.
Effectivement, parce que ces mutations se sont accélérées à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Néanmoins, on est resté sur un héritage, sur des modes de faire, sur un urbanisme autoritaire très longtemps, jusqu'aux années 80. Même si il y avait un retour à la ville, à l'histoire, notamment par des mouvements qui nous venaient d'Italie, comme la Tendencia, etc.
Est-ce que c'était la Tendencia?
C'était tout le retour à l'historicité de la ville pour faire de l'architecture contemporaine. C'est-à-dire que c'était une rupture avec le mouvement moderne, quelque part. Donc, ces idées-là vont bien évidemment arriver en France. Ces idées-là vont être adoptées par certains urbanistes. Le premier changement, en fait, est lié à la décentralisation de 82, quand les collectivités locales
en France
commencent à avoir un rôle. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, bien évidemment, les choses changent. Il me semble que maintenant, les choses sont acquises. De toute façon, étant donné, ce que je dis souvent, ce n'est même plus une crise écologique, c'est une nouvelle ère géologique. Donc, nous ne pouvons plus continuer à penser la ville, l'habitat, justement, les modes de faire de la même manière. C'est vrai qu'on a un héritage, mais cet héritage, il est bousculé actuellement, un peu comme au début du XXe siècle. Il est bousculé par la nécessité de faire autrement, la nécessité de penser autrement. Je dirais, bien évidemment, comme je suis architecte urbaniste, que les architectes et les urbanistes sont des acteurs, doivent être du moins des acteurs de cette transformation.
Bien sûr, je n'ai pas cité les enjeux environnementaux, écologiques. Je voulais qu'on leur fasse une place spéciale. Je partais surtout de l'urbanisation croissante. Hein, mais aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus les séparer, c'est évident.
Évidemment. De toute façon, je ne vois pas dans quel domaine ou dans quel métier ou dans quel mode de vie on pourrait les séparer actuellement. C'est comme habiter son environnement. C'est une pensée globale qui se décline au regard des métiers.
Mais alors vous qui êtes enseignante, ça veut dire qu'il va falloir complètement ou que vous êtes en train complètement de modifier les enseignements?
Absolument. D'abord, je tiens à dire que je pense que fondamentalement, c'est par l'enseignement que les choses peuvent se transformer. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes architectes actuellement qui innovent, qui ont des démarches différentes, mais enseigner, c'est former les métiers de demain. Et je pense que si nous n'enseignons pas autrement, nous ne pouvons pas avoir des architectes et des urbanistes qui pensent autrement. D'autant plus qu'en France, on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers qui, des fois, ne sont pas forcément dans les mêmes attentes de l'enseignement, qui attendent un peu un prêt-à-penser quelque part, y compris sur l'écologie, un regard plus technologique sur la ville durable, l'environnement, etc. Donc, une des choses à faire, c'est d'abord remettre en question la démarche du projet.
Alors à quoi faut-il renoncer ? Où sont les grands défauts de l'enseignement, on va dire, du XXe siècle ?
Déjà les matériaux, mais je pense que beaucoup d'écoles ont intégré l'idée que...
Les matériaux
biosourcés, etc. On intervient sur le sol. Déjà la prise en compte du sol et du sous-sol. La prise en compte du vivant. La prise en compte de paramètres qui n'étaient pas ceux de l'architecture.
Cesser de bétonner le sol, par exemple.
Cesser de bétonner le sol, bien évidemment. Comprendre que le sol et le sous-sol sont aussi vivants. Et comprendre qu'on vit dans une biodiversité et que si on ne construit pas, que ce soit des villes, que ce soit du urbain, que ce qu'on soit dans un... Si on n'agit pas avec, on ne pourra pas transformer les choses. Ce qui nécessite peut-être aussi à des métiers qui sont transversaux, c'est-à-dire à des croisements de savoir. Peut-être que l'architecte doit aussi avoir des cours de biologie, ou il faut repenser la manière de faire. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect sur la question de l'expertise d'usage. De plus en plus, des écoles le font, travailler avec les habitants. Travailler avec et pour les habitants. C'est-à-dire à apprendre à justement à s'adapter.
Cela remet dès la conception,
En amont de la conception.
En amont même.
D'ailleurs, l'habitat participatif, si on va y revenir, c'est justement en cela qu'il bouscule les modes de faire. Parce que c'est pas à partir du projet qu'on fait une concertation, mais c'est en amont. Et avec des phases de remise en question du projet. Donc ça remet complètement l'idée du projet qui est préétabli, qui est fait par l'architecte et qui va être soumis à débat ou pas d'ailleurs, ou le projet d'urbanisme. Donc c'est un va-et-vient et c'est des étapes d'évaluation qui changent complètement la manière de faire.
Mais est-ce que dans les enseignements pour les architectes, les futurs architectes et urbanistes, on tient compte par exemple de paramètres démographiques, d'évolution dans la société? On sait qu'aujourd'hui, on n'habite pas forcément toute une ville le même logement, mais surtout qu'il doit être évolutif.
Complètement.
Que la famille se déplace, qu'il y a des familles recomposées, beaucoup de séparations.
Absolument.
Ça fait partie des études, ça? On en tient compte?
Non, on en tient compte de plus en plus, parce qu'on sait que le modèle, justement, du pavillon qui va être acheté par le jeune couple avec des enfants et dans lequel on va vieillir, n'est plus opérant. Il n'est plus opérant parce que, d'une part, comme vous venez de le souligner, les familles sont souvent recomposées. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin, à la fois, le week-end, d'avoir 4 enfants et en semaine, de pouvoir se retrouver seul, d'une part. D'autre part, on sait que ce mode de vie pavillonnaire n'est pas du tout adapté à des personnes vieillissantes, d'une part pour les charges que ça représente et les efforts physiques et l'isolement que ça représente. Il n'y a plus un logement pour toute la vie. Il y a des logements pour des étapes de la vie. Et d'autre part, c'est peut-être pas rural et urbain, mais c'est peut-être une autre façon de penser aussi l'urbain, qui est plus en correspondance avec un environnement plus naturel. Pas la nature, parce que ça c'est un autre débat, qu'est-ce que la nature, mais je dirais l'environnement, le milieu habité.
Donc tenir davantage compte bien sûr des habitants, travailler avec des professionnels issus d'autres champs.
Absolument.
Ça vous paraît aussi indispensable. Et au fond, il n'y a plus de plan initial. C'est un plan qui peut être évolutif.
Alors oui, c'est le
qui n'est pas simple quand même.
Non, qui n'est pas simple et qui remet en question la manière de le modus operandi des architectes. Mais il n'empêche que je tiens à le dire et je le dis toujours, ça ne remet pas en question le savoir des architectes pour autant. Il y a une formation, ils ont un savoir-faire, ils ont une capacité de spatialiser les choses, ils ont une capacité justement de traduire des enjeux sociaux dans des questions spatiales. Ça, c'est la force quand même des architectes et des urbanistes. Néanmoins, c'est la procédure et les paramètres convoqués qui sont à changer.
Et là encore, je repose la question du politique dans ce contexte nouveau, 21e. Vous avez dit les collectivités locales, dès le 20e siècle, ont commencé quand même à se faire entendre davantage. Est-ce qu'aujourd'hui C'est encore un peu ce qui blesse ou pas?
En tout cas, la question est que tout ce qui relève de la ville, des politiques de la ville, de l'aménagement, de l'urbanisme, des changements, est une question fondamentalement politique.
Donc, et le reste?
Voilà. On ne peut pas dissocier les deux. Donc c'est fondamentalement politique et c'est fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, un projet de société.
On ne parle que des villes, là, Marlène Gorayeb. On ne peut pas ne pas parler du rural aussi, vous l'avez d'ailleurs un petit peu dit.
Alors le rural,
du rurbain, comme
du rurbain. Non, mais ça fait partie des nouvelles façons d'envisager les choses. Peut-être on n'a pas cette opposition forcément entre l'urbain et le rural. Peut-être il y a justement, on est appelé à repenser les choses différemment parce que le rural aussi est en mutation. Le rural est comme la ville. Bon, il est vrai que toutes les prévisions disent qu'on va être, on est à 70%, ça va être un monde de ville, etc. Mais il n'empêche que ça questionne aussi le devenir du rural, bien évidemment.
Quelle distinction faites-vous aujourd'hui entre l'architecte et l'urbaniste? On entend de plus en plus d'architectes urbanistes. C'est pas la même profession.
C'est pas la même profession, non. L'urbaniste, il a son champ. C'est déjà d'autres échelles d'intervention.
Je veux dire, qu'est-ce que dans ce nouveau contexte, hein, bien sûr, c'est pour ça que je pose la question.
De toute façon, les architectes sont, de par leurs études et de par leur métier, convoquent la grande échelle et des questions urbaines et des questions politiques et des questions de mode de vie. Et bien évidemment, la question de l'urbanisme, on va être à l'échelle de la ville, dans un raisonnement de grand paysage, dans un raisonnement qui convoque plus de paramètres, contrairement à l'architecte qui va être, même quand il est dans un grand équipement qui transforme la ville, bien évidemment, mais il reste à l'échelle du projet. Alors que les urbanistes sont vraiment à une autre échelle.
Je veux dire, est-ce que les deux se confondent plus qu'autrefois?
Non, je ne pense pas plus qu'autrefois, parce que fut un temps où il suffisait d'être architecte pour se considérer comme urbaniste, parce que on donnait des projets d'urbanisme à des architectes. Ils se confondent pas plus qu'autrefois, mais je pense qu'ils s'acheminent tous les deux ensemble vers d'autres horizons et vers d'autres pratiques de métier.
Est-ce qu'on parle d'utopies aujourd'hui qui sont en train de se réaliser, par exemple, une plus grande décision de l'habitant, ou même beaucoup d'architectes ont rêvé de formes différentes de modes d'habiter? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de réaliser certaines utopies, ou qu'en tout cas on aimerait le faire?
La vraie question.
Je reviens d'anciennes utopies. Hein,
alors, les anciennes utopies, bien évidemment, dès le départ, les utopies se sont saisies de la question de l'habitat et ont bien mis en avant que pour réformer une société, il fallait que ça passait par l'espace. Il fallait l'habitat, il fallait revoir la manière de vivre ensemble dans une ville, etc. Mais la grande question, je pense, qui se pose maintenant, c'est l'absence d'utopie. C'est-à-dire que très souvent, quand les sociétés sont en crise, des utopies émergent comme une réponse utopique, bien évidemment, mais qui se sont réalisées. Enfin, Fourier avec le phalanstère, c'est des utopies qui se sont réalisées. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas d'utopie, et c'est une vraie question, à laquelle je n'ai pas une réponse directe. De nouvelles utopies n'émergent pas, alors que nous sommes en pleine crise.
Alors que vous pensez de nous, ça.
Alors que nous sommes dans une crise déstabilisante sur tous les plans.
Donc c'est surprenant pour vous.
Ça fait partie des questions qu'on se pose, cette absence de vision utopique. Mais je pense que ça s'inscrit dans... Vous savez, il n'y a pas que les architectes, les urbanistes et les paysagistes qui revoient leur... qui devraient revoir leur modus operandi, peut-être les politiques aussi, peut-être. Donc ça nous amène, je veux dire, cette réponse, je pense, à l'absence d'utopie devrait s'inscrire dans un contexte plus large. Mais il n'y a pas du tout, enfin, à mon sens, actuellement, on n'a pas une ville rêvée, un modèle rêvé.
On ne rêve pas la ville comme on le devrait.
Non, on ne rêve pas la ville. Et la ville ne fait pas rêver non plus.
Et la ville ne fait pas rêver.
C'est surtout, si la ville pouvait faire rêver, on aurait résolu pas mal de problèmes.
Quelques noms célèbres, je sais que vous les admirez, Frank Lloyd Wright par exemple, mais on est en 1930, qui déjà rêvait d'une société en harmonie avec la nature. Racontez-nous un peu ce qu'il a proposé. Voilà, c'était même pas un utopiste, il essayait de le
réaliser.
Non,
c'était pas un utopiste, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements, dont celui-ci, où on a rêvé de vivre autrement la ville, dans un rapport, disons, plus harmonieux avec son environnement et la nature. Ces idées-là ont beaucoup, beaucoup...
Lui, il est intervenu dans quel...
Aux États-Unis.
Beaucoup aux États-Unis, bien sûr.
Aux États-Unis, mais au-delà de Frank Lloyd Wright, c'était une vision d'ensemble, y compris les hygiénistes. Les hygiénistes voulaient, dès le début du XXe siècle, ramener la nature en ville pour justement vivre de façon plus harmonieuse, dans un rapport plus harmonieux avec la nature. Donc la question de la nature en ville n'est pas du tout une question récente. C'est une question qui se pose depuis plus d'un siècle, voire plus maintenant.
Et qui a mis bien longtemps à s'imposer. Que dites-vous de Le Corbusier, qui est très controversé dans ses débats contemporains aujourd'hui avec la nature? Il y avait une manière très utilitariste, au fond, d'habiter.
C'est le fonctionnalisme. Mais ceci étant dit, on ne peut pas réduire toute l'ambition qu'avait le mouvement moderne, représenté par Le Corbusier, mais pas seulement, à la question du fonctionnalisme. Bien évidemment, Le Corbusier va aborder cette société de machinistes, etc. Mais ce qui va poser problème après, en France et ailleurs, c'est qu'on va quelque part dans la mise en œuvre de ces idées-là, l'essence même de ces idées-là va être un peu réduite à quelque chose de très fonctionnel, très opératoire, très opérationnel. C'est-à-dire que d'une idée d'une ville fonctionnaliste, on va passer à toute une réglementation dictée par le haut, où on va séparer les fonctions avec des zones industrielles, etc. Ici et ailleurs, le problème va se poser de façon encore plus aiguë, parce que les villes qui connaîtront ces plans d'aménagement, schéma directeur, notamment, je pense à l'Afrique, vont avoir la ville formelle, faite de plans, et la ville qui se construit en dehors du plan pour les raisons que nous connaissons et qui va être pensée comme étant une ville illégale pendant un moment, pendant la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à la fin des années 80, le début des années 90, où on va revenir sur cette idée-là où la ville en dehors du plan n'est pas la ville illégale. Donc c'est cette déclinaison de toutes, oui, de toutes ces idées-là, la manière dont ça se met en œuvre, qui pose un vrai problème.
Mais est-ce que ça veut dire que les villes, par exemple, qui se sont, et vous parlez des villes africaines, mais il y en a énormément dans le monde entier, les villes qui se sont étendues comme ça de manière informelle ont échappé, au fond, à l'architecte urbaniste?
Forcément, parce que l'architecte urbaniste ne pouvait pas les prendre en compte. L'architecte urbaniste qui répondait surtout à cette époque-là où la demande était venait par le haut, c'était un pouvoir décisionnel qui commandait le plan. C'était un gouvernement, parfois un chef d'État, qui allait commander le schéma directeur de la ville. La question de l'habitat informel et des bidonvilles n'était même pas considérée comme une question urbaine. On pensait qu'on allait résorber la question soit par la force, parce que des fois c'était vraiment au bulldozer qu'on délogeait les gens qui allaient s'installer un peu plus loin, soit on pensait, ces gouvernements-là, notamment les jeunes États, pensaient vraiment, au regard du modèle occidental, pouvoir construire des logements sociaux et absorber ce type d'habitat. Maintenant, on sait que ça fait partie de la ville. On sait qu'il faut restructurer, qu'il faut améliorer et qu'il faut considérer comme des quartiers populaires faisant partie intégrante de la ville.
On voit se développer ce mouvement-là d'architectes urbanistes intéressés par ces quartiers.
Ah oui, 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 beaucoup, beaucoup. Vous avez le mouvement Think Tank, enfin, vous avez beaucoup de
qu'est-ce que c'est, ce mouvement
qui sont, enfin, c'est des jeunes architectes vénézuéliens, par exemple, qui ont essayé de trouver des réponses. On a, d'ailleurs, pour revenir à la question de la formation, beaucoup d'écoles d'architecture en Amérique latine font participer leurs étudiants, enfin, les étudiants vont dans les bidonvilles, dans les favelas, etc., et en font un sujet d'étude. Donc de plus en plus d'architectes, y compris de professionnels, s'intéressent à ce qui n'était pas considéré comme étant la ville, mais qui recouvre le plus clair des villes du monde.
Oui, et qui pour le coup travaille avec les habitants. Donc on est en train de partir du bas, si j'ose dire.
Complètement.
Pour remonter vers, par exemple, des formes un peu plus...
Complètement.
Un peu plus chic, entre guillemets, comme l'habitat participatif ou d'autres.
D'ailleurs, l'habitat participatif a énormément influencé maintenant.
Oui.
Ah oui, oui.
Ouais.
L'habitat participatif qui va prendre une ampleur particulière dans les deux, voire trois dernières décennies, mais qui a une longue histoire aussi. Depuis les années 60, il y a eu la première expérimentation. Et en fait, il amorce des solutions même si c'est pas l'habitat, c'est pas le modèle de l'habitat participatif.
On rappelle ce que c'est, hein, l'habitat participatif, ce sont des citoyens qui décident ensemble, parfois très très en amont, hein, dès la co-construction et parfois un peu plus tard, de mettre en commun leur mode de vie, parfois des locaux, parfois des actions, un jardin partagé, enfin il y a une forme très différente. C'est évidemment un avantage financier d'abord, mais pas seulement, bien sûr.
Non, pas seulement.
C'est on plus, y reviendra d'ailleurs dans notre série. Hein.
C'est plus une... Généralement, c'est des citoyens qui sont à la recherche d'un autre mode de vie, d'un autre rapport au voisinage, qui veulent sortir justement de la production du logement, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le logement aidé, que ce soit dans cette production de logement, pour vivre, pour que leur logement, leur habitat, là pour utiliser un terme tout à fait correct, leur habitat corresponde à leur manière de concevoir leur vie dans le rapport aux autres. Et ce que l'habitat participatif, in fine, a apporté, c'est toutes les questions qui se posent maintenant. Il est le contraire même de la ville fonctionnelle.
Est-ce qu'il est très revendiqué par les jeunes étudiants en urbanisme, en architecture ? On sait que dans les mouvements écologistes, on s'appuie beaucoup, et en tout cas il y a beaucoup d'espoir du côté des très jeunes générations qui n'acceptent plus certains modes de vie. Est-ce que vous avez le sentiment que les futurs jeunes architectes urbanistes ont ce type de revendication en tête ? Ce que vous avez auprès de vous, en tout cas.
De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'ils sont tous conscients qu'on peut pas continuer dans, enfin, on peut pas être dans la continuité de ce qu'ils ont connu, y compris comme mode d'habiter. Donc, il y a cette conscience chez les jeunes étudiants en architecture qu'il faut changer la donne. Il faut changer la donne dans le sens de la réversibilité des logements, mutabilité dans un urbanisme transitoire. Enfin, tout cela, c'est des choses auxquelles ils sont confrontés, y compris dans leur pratique au quotidien.
Mais en fait, vous poussez pas plus que ça à le faire ? Si.
On est plus dans une période de questionnement. C'est plus un questionnement de leur part, une insécurité, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que je leur dis toujours que c'est les périodes de crise qui font émerger les plus belles idées et qu'ils devraient profiter dans une période de crise au lieu de se plaindre. Ils sont plus dans un questionnement que dans des certitudes, ce qui est très bien.
Ce qui est très bien. Bien, merci beaucoup, Marlène Gorayeb, enseignante, donc je l'ai dit, professeure et également architecte urbaniste qui a parcouru toute cette longue histoire de l'urbanisme pour en arriver à nos utopies peut-être réalisables au XXIe siècle. Merci d'être venu nous trouver ce soir.
Merci à vous.
Nous reviendrons bien sûr sur l'habitat participatif que vous venez d'évoquer avec une autre discipline, la sociologie, évidemment très impliquée dans ce phénomène. Poursuite donc demain, demeurer, habiter, se loger, notre série de cette semaine. Et merci à notre équipe de ce soir. Anne-Laure Chanel réalise l'émission avec Mathieu Leroux, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet ont assuré la documentation, la préparation, beaucoup de titres à vous recommander, les travaux de Marlène Gorayeb notamment. Bonsoir à tous, à demain.